Gloire à Dieu. Voilà, maintenant on va passer au partage de la parole de Dieu avec ce titre « Perdu, retrouvé ». Pour les assidus que vous êtes de la parole de Dieu, vous comprenez très bien où on va lire ces passages. Il y a ces trois petites histoires qui finalement n'en font qu'une, des choses qui ont été perdues et qui ont été retrouvées et qui a procuré une abondante joie. Alors, ces trois paraboles de ce chapitre forment un ensemble merveilleux. C'est dans Luc chapitre 15 qu'on retrouve ces petites histoires. Hein. Vous savez très bien que les paraboles, ce sont des petites histoires pour révéler de grandes vérités. Alors, elles sont simples et des fois, on a de la difficulté à comprendre la volonté de Dieu. Alors, imaginez-vous si c'était un peu compliqué. On aurait davantage de difficultés. Mais ici, on va voir qu'il y a des choses qui ont été perdues. Et c'est cette parabole, finalement, parce que c'est une seule parabole, donc forme un ensemble merveilleux, une brebis égarée, une drachme perdue et un fils prodigue. On lit, on va y aller étape par étape. Hein. On va lire tout d'abord l'introduction et le contexte de ce que Jésus va raconter comme parabole. On va lire les trois premiers versets. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. On arrête là la lecture, on y reviendra tout à l'heure. On s'aperçoit ici qu'il y a un contraste qui est affligeant. Il y a des personnes qu'on a qualifiées des gens de mauvaise vie, et elles ont été qualifiées par d'autres groupes de personnes. On l'a lu ensemble, il y avait des pharisiens, il y avait des scribes, il y avait des publicains qui étaient là et qui suivaient Jésus. Et en fait, ils étaient quand même attirés parce que Jésus pouvait dégager. Et on le comprend, hein, quand ils entendaient la manière de parler du royaume du Seigneur Jésus, il ne pouvait être que qu'interpeller, parce que Jésus parlait de choses qu'il connaissait. Nous, si le Seigneur nous révèle pas certaines choses, ben disons qu'on peut partager sur certains thèmes de la parole de Dieu, mais on n'a pas tout le panorama. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, lui, quand il parlait du royaume, il savait de quoi il parlait, il sait comment ça se passe là-haut, et donc il y a toute cette catégorie de personnes qui suivent Jésus, ils sont interpellés, parce que Jésus, quand même, il attirait les personnes comme un aimant attire vers lui, et ça c'est extraordinaire. Jésus le fait encore aujourd'hui. Hein. Plus de 2000 ans plus tard, le Seigneur encore attire des personnes à lui. Pour entendre sa voix. Ce matin, on a passé un temps dans la présence de notre Seigneur, et j'espère que dans ceux qui sont venus avec des questions, hein, à un moment donné, besoin d'une orientation nouvelle, peut-être d'une décision à prendre, que le Seigneur vous a parlé. Parce que le Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, cette catégorie de personnes suivait Jésus, et donc... Il y a les publicains, les pharisiens et les scribes. Eux, les publicains, on le sait, hein, c'est des collecteurs de taxes. Je sais pas si... je pense que c'est quand même une profession qui sont pas très aimées. Hein. Je sais pas si vous aimez votre percepteur. Hein, en tout cas, priez pour lui. Mais ici, les publicains, c'est les collecteurs de taxes. Et pour eux, leur seul souci, c'était de s'enrichir. Et puis, il y avait des gens de mauvaise vie qui s'approchaient de Jésus et ils n'avaient jamais rien vu de pareil quand Jésus opérait un miracle extraordinaire. Ils voyaient des choses tellement merveilleuses. Ils étaient attirés par le Seigneur. Il y avait des pharisiens. Et eux, ces pharisiens, c'était des guides religieux. Jésus va dire qu'il est dur, hein, pour un aveugle de conduire un autre aveugle. Parce qu'en fait, la loi et la religiosité, mais le mauvais côté de la religion, les avait complètement aveuglés quant à la grâce, à la bonté et à l'amour de Dieu. Et ces hommes étaient tombés donc vraiment dans un aveuglement terrible et profond. Donc, eux, normalement, étaient reconnus pour être des guides religieux, mais en fait, ils guidaient jamais personne. Et vous allez vite vous apercevoir, quand vous lisez les évangiles, que Jésus, il les reprenait sévèrement. Il ne faisait pas de demi-mesure. Hein. Des fois, hein, quand on doit rectifier une situation, on doit reprendre, on arrondit les angles, et c'est bien de le faire, on doit le faire avec douceur, évidemment. Mais quand Jésus, il parlait aux pharisiens, ben, je veux le dire comme ça, hein, il leur rentrait dedans. Hein. Parce qu'il y avait des choses qu'ils ne toléraient pas. Quand on met un poids sur le peuple, et ça, c'était le cœur du Seigneur Jésus, un poids sur le peuple que eux-mêmes ne pouvaient pas porter. Alors là, ça révoltait quand même le Seigneur Jésus, et il va leur dire ouvertement, alors vous comprendrez très bien qu'il n'était pas très populaire au sein des pharisiens. Hein, et c'est au travers de cela qu'ils vont essayer donc de monter un plan, une cabale contre le Seigneur Jésus, essayer de le trouver à défaut. Mais en fait, comment trouver à défaut le Fils de Dieu? Comment trouver un seul péché de la part de notre Seigneur? Évidemment, il ne pouvait pas. Et puis, il y avait des scribes également, c'était des écrivains publics, des secrétaires, pour la transmission de tout ce qui pouvait se passer. Et donc, dans cette catégorie-là, certains vont commencer à murmurer. Et oui, hein, ils vont se lier ensemble donc pour murmurer contre le Seigneur, parce que pour eux, les personnes qui suivaient le Seigneur n'étaient pas assez saintes. Dans un autre passage, Jésus va faire cette déclaration extraordinaire. Hein, il a dit, mais moi je suis pas venu pour les bons portants. Je suis venu pour les malades, ceux qui se considèrent en fait avec une difficulté. Et le Seigneur Jésus, dans toute sa vie, ici-bas, sur terre, il a fait que ça, en fait. Il a fait que rencontrer des personnes qui avaient de gros problèmes, qui avaient des grosses difficultés. Et par des moyens extraordinaires, le Seigneur a fait des choses merveilleuses. Alléluia. Amen. On s'aperçoit également que Jésus va dire, mais il leur dit, pour leur expliquer, verset 3, mais il leur dit cette parabole, pour qu'ils comprennent, pour les confondre, en fait, pour leur expliquer comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Et ce langage imagé de la parabole permet à Jésus de communiquer un enseignement qui était facile à mémoriser. On va lire maintenant la première partie d'une quelqu'un qui a perdu, une personne qui a perdu une brebis. Alors, vous qui êtes ancien dans la foi, c'est sûr que vous avez déjà entendu prêcher dans une réunion d'évangélisation de la brebis perdue que le Seigneur appelle. C'est une réalité. Hein. Moi-même, je l'ai entendu peut-être des dizaines et des dizaines de fois. Mais cette parole, elle est encore capable, si on la saisit, de comprendre ce que Jésus a voulu dire vraiment à ses pharisiens, ses scribes et donc ses publicains. Donc, on voit, on lit les sept à partir du verset 4, et puis les versets en suivant. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Amen. Alléluia. Donc ici, Jésus est en train de leur raconter cette histoire qu'un homme, il avait un troupeau, c'était à cette époque-là, un troupeau de 100 bêtes, c'était un troupeau moyen à ce moment-là. Et donc, il y avait cet homme va perdre une brebis. Et ici, en fait, Jésus est en train de leur révéler le cœur, le caractère du berger. Parce que peut-être un berger, on va dire, nonchalant, s'aurait dit, bon, on a quand même droit à quelques pourcents de pertes. Mais c'est pas le caractère de ce berger. Et la métaphore de Dieu comme berger, elle est courante dans l'Ancien Testament. Hein. D'ailleurs, le psaume le plus populaire de la Bible, vous le connaissez. Hein. Le fameux psaume 23, certains seraient capables de le réciter par cœur. On va pas faire l'exercice ici ce matin, hein. Mais en tout cas, c'est dans nos cœurs et dans la Bible, donc on s'aperçoit que cette métaphore du berger est courante dans l'Ancien Testament. Et ce que j'aimerais vraiment attirer ce matin, votre attention sur le cœur du berger, son attention, son amour, son sacrifice et également sa patience. Ce qu'on remarque, c'est que le bon berger, il connaît parfaitement sa brebis. Il la connaît. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours... je me souviens, à un moment donné, quelqu'un qui était là, donc un berger avec son troupeau. Je me souviens très bien, ça m'avait marqué, j'étais tout jeune, hein, et il les appelait chacune de ces bêtes par leur prénom. Alors, certains étaient un peu loufoques, mais en tout cas, il les connaissait, alors que moi, quand je regardais le troupeau, pour moi, elles étaient toutes semblables. C'était toutes les mêmes. Mais on s'aperçoit que le berger, il connaît parfaitement ses brebis. Et c'est ce que nous dit Jean, chapitre 10, et le verset 14. Jésus va faire cette déclaration. Jésus va dire un peu plus tard, il va dire, « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Ça, c'est quand même quelque chose de tellement important. Parce qu'encore une fois, Jésus va enseigner, va dire, « Vous savez, c'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. » Cette parole doit quand même venir nous interpeller. Et Jésus va révéler ceux qui vont rentrer dans le royaume des cieux. C'est ceux qui le connaissent. C'est ceux qui ont un rapport avec lui. C'est ceux qui ont une intimité avec ce Jésus. Pas simplement le Jésus où quand j'ai besoin de quoi que ce soit, vous savez, à un moment donné, dans les fêtes foraines, hein, on mettait une pièce dans une certaine machine, et puis à coup sûr, on gagnait. Et des fois, on s'approche avec cette mentalité de Jésus. Jésus est celui qui doit obligatoirement subvenir à tous mes besoins. Dès que je lui demande quelque chose, il doit pouvoir m'exaucer. On pourrait peut-être prendre plusieurs exemples dans la Bible de personnes, d'hommes de Dieu, qui n'ont pas été exaucés. Ça peut venir peut-être nous interpeller ce matin. Tout ça pour vous dire que le bon berger, il connaît parfaitement. Et mon ambition, et j'espère que c'est la vôtre, c'est d'être connu par le bon berger. Être connu en disant « oui ». C'est ma brebis. Et pour connaître le berger, il faut passer du temps dans sa présence et jour après jour. Alléluia. On s'aperçoit également que ce berger de cette parabole, il est préoccupé par le sort de la brebis. Elle s'est perdue. Cette brebis s'est perdue et le bon berger, lui, il s'inquiète pour elle. Alors si on se met 30 secondes, peut-être... à la place de la brebis, on ne sait pas comment elle s'est perdue. Alors vous savez, hein, des fois, les bêtes, simplement, en mangeant, en broutant, peut-être, hop, elle s'est écartée du troupeau, et puis elle est allée dans un nouveau pâturage, et peut-être que pour elle, pour cette brebis, elle s'est dit, tiens, cette herbe-là, elle a un goût extraordinaire, et puis elle va aller plus loin jusqu'à se perdre. Et puis la nuit vient, elle se retrouve toute seule. Et là, elle est complètement perdue. Et le bon berger, lui, va s'inquiéter de la brebis perdue. Il la cherche partout. Et on voit là l'état de cœur de ce bon berger. Il va laisser les autres en sécurité dans le désert. C'est le petit détail. Dans le désert, mais en sécurité. Et il la cherche partout. Son but, c'est de la retrouver. Il dit, il la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Et on voit ici, en fait, la motivation du berger. Il n'était pas résolu de perdre cette brebis. Sûrement qu'en comptant, le soir, c'est sûr, c'est comme ça que ça s'est passé. La Bible ne le dit pas, mais on peut facilement l'imaginer. C'est qu'en rentrant le soir, il a commencé à les compter 10, 20, 30, puis il est arrivé 97, 98, 99. Et puis, peut-être, il s'est dit, mais j'ai dû mal compter. Il a recommencé peut-être plusieurs fois, on ne sait pas. Puis, il fait le constat, il en manque une. Et le Seigneur s'inquiète. Et le berger s'inquiète, il est préoccupé par le sort de la brebis, et son but, c'est de pouvoir la retrouver. Et là, en fait, on peut donc faire ce transfert avec cette parole de Luc, chapitre 19, verset 10. Ça, c'est la conclusion d'une histoire très, très connue au milieu de nous. C'est cette rencontre de Jésus avec Zachée. Et cette histoire, elle se termine comme ceci. Luc 19, verset 10. « Car le Fils de l'homme, il est venu pour un but, chercher et sauver ce qui est perdu. On bénit Dieu parce que nous étions de son ombre. J'étais perdu, nous étions perdus. Il nous a retrouvés, alléluia, amen. Il s'est inquiété de nous. Il s'est dit, mais il faut que j'intervienne dans sa vie pour le sauver. Amen. Que son nom soit béni. » Et lorsque... le Seigneur, quand il agit, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu, en fait, il observe, il écoute, il explore les buissons, les ravins, les trous, parce qu'il s'inquiète encore une fois du sort de la brebis. Et lorsqu'il l'a trouvé, au lieu de la frapper, de vous dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Il ne fait pas ça, le berger. Le berger l'enveloppe de bienveillance. Il l'apporte, et j'aime beaucoup cette image, il l'apporte avec joie sur ses épaules. Amen. Pourquoi sur ses épaules? Déjà, la brebis s'est sentie rassurée. Il l'a portée sur ses épaules. Et peut-être également qu'elle n'avait plus de force. Quelle belle image de chacun d'entre nous. Quand nous sommes venus au Seigneur, il est venu. Amen. Et il nous a retrouvés et il nous a portés avec joie sur ses épaules. C'était le thème de la louange ce matin. Avec joie. Frères et sœurs, exprimons davantage la joie dans nos cœurs. On a été souvent réduits que dans les églises, c'est quelque chose d'austère. On doit faire... La tête, c'est obligatoire. C'est comme ça qu'on se rend accessible au Seigneur. C'est pas tout à fait ça. La joie, Jonathan l'a très bien expliqué en introduction, elle est dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous étions perdus. Il nous a retrouvés. Alléluia. Sur de telles épaules, la brebis, elle ne craint rien. Et tant que nous sommes sur ses épaules, nous ne craignons rien du tout. Et même si le chemin est difficile, alors on ne craint rien. La brebis égarée est assurée d'atteindre la maison. Pourquoi? Parce qu'elle est sur ses épaules. Notre responsabilité, c'est de rester sur les épaules de notre Seigneur. Il a la capacité de nous porter, de surtout pas dire, c'est bon, maintenant je peux me débrouiller tout seul. Cet esprit un peu d'indépendance. Ce qu'il nous faut savoir, c'est que c'était une prophétie qui datait déjà de quelques siècles auparavant. Regardez la précision. Ézéchiel, chapitre 34, verset 16. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je panserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses, je veux les paître avec justice. Encore ici, une fois, l'image du berger et du troupeau. C'est important ici, ce qu'on est en train de lire. C'est qu'à un moment donné, donc une révélation au prophète de ce que le Seigneur va faire avec son peuple. Et il prend encore cette image. Je chercherai celle qui est perdue. Il poursuit toujours ce but, toujours et encore. Je ramènerai celle qui s'est égarée et ça peut nous arriver à un moment de s'égarer dans nos pensées, de s'égarer peut-être dans des prises de position, en pensant que c'est comme ça qu'on doit faire. Celle qui est blessée, vous le savez aussi bien que moi, la vie, elle blesse, elle brise même. Tout à l'heure, on a chanté que Dieu est le Dieu qui restaure. Et je bénis Dieu parce qu'il est le Dieu de la restauration. Il va même construire sur des ruines. Ça, c'est la capacité du Seigneur pour chacune de nos vies, alléluia, celle qui est blessée. Et on sait que la vie, elle blesse. La vie en communauté, elle est faite de blessures. Si vous n'avez jamais été blessé par un frère ou une sœur, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Ah, je suis pas prophète de malheur, mais c'est la réalité des choses, en fait. On met de l'humain quelque part, et des fois, sans le vouloir. Combien de fois ça m'est arrivé? Alors, des fois, j'ai été maladroit. Mais combien de fois ça a pu m'arriver, sans le vouloir, quelqu'un, justement, après un temps de remise en question, pasteur, frère, tel jour, tu as fait ceci, tu as fait cela, et alors, complètement déstabilisé. Ah bon? Et là, je me suis aperçu que des fois, on n'a pas la même perception des choses. Et donc, des fois, sans le vouloir même. Parce qu'on est dans cette faiblesse. Et on a besoin, vraiment, de la grâce de notre Seigneur. Et de laisser le Seigneur guérir nos cœurs. Je vous en supplie. La rentrée, tout à l'heure, Yacouba a prié pour la rentrée. Il y aura un dimanche, évidemment, le premier dimanche de septembre, un culte spécial rentrée. Tellement important. Mais j'aimerais déjà... en préambule, vous dire, mon frère, ma sœur, si tu as été blessé, recherche la guérison du Seigneur, mais ne continue pas une année supplémentaire avec cette blessure dans ton cœur. Parce que ce que va créer la blessure, c'est un isolement. Ce que va créer donc la blessure, c'est une justification. On se justifie, oui, mais tu sais pas par quel chemin je suis passé. Non, peut-être pas. Mais Dieu, lui, le sait. Et notre responsabilité, c'est de le comprendre et de se dire, mais je veux tout remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur, je permets que tu puisses venir me sonder mon cœur, pour voir et pour te laisser l'opportunité de me guérir. Alléluia. Amen. Ce verset, il est merveilleux. Donc, il pensera à celle qui est blessée. Je fortifierai celle qui est malade. Alléluia. Une église qui va de l'avant, c'est une église forte. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème, on n'aura plus de problème, plus de difficultés, mais nous allons nous fortifier. Pourquoi nous fortifier? C'est la question. Parce qu'en fait, on est soumis et bombardé par un adversaire qui est là, qui va essayer de nous déstabiliser. Et ceux qui vont tenir ferme, c'est ceux qui sont forts dans la foi. Que notre foi, elle soit forte dans notre Seigneur. Alléluia. Mais il y a également un avertissement. Mais je détruirai, dites-moi ce mot-là, il est quand même un peu choquant. Hein? Ça vient quand même nous perturber, parce que dans notre conception de Dieu, Dieu qui détruit. Oui, parce qu'il y a des choses que le Seigneur ne peut pas tolérer, et des fois le Seigneur veut détruire certaines choses dans nos cœurs. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Le Seigneur veut nous faire, alors celle-là préparée, et notez-la quelque part. Le Seigneur veut nous faire grandir, mais veut pas nous faire grossir. Le Seigneur veut nous faire grandir, mais il veut pas nous faire grossir. C'est en fait ici l'interprétation de ce verset. Qu'est-ce que ça représente? Grâce, c'est-à-dire que ben on se suffit à nous-mêmes. Grâce vigoureuse, mais je veux les paître avec justice. On en a parlé dimanche dernier. Alléluia. Puis il y a le retour à la maison. Une fois que la brebis a été mise sur les épaules, le retour à la maison, il est inévitable que la joie du berger se communique à tous, aux amis et aux voisins. Regardez, peut-être un livre, un petit prophète dans l'Ancien Testament. On n'y va pas trop dans ces 12 petits prophètes. Sophonie, chapitre 3, verset 17. Alors déjà, pour le trouver dans les Bibles, c'est un peu compliqué. Hein? Mais aujourd'hui, avec le numérique, ça va aller. Mais vous pouvez le lire ici. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. C'est pour ça que ici le berger, il est dans la joie parce qu'il a retrouvé sa brebis à la fin de l'histoire. Donc au ciel, un élu n'est pas comme un anonyme au milieu d'une foule indifférente. Ça nous montre que Dieu met tout en œuvre pour sauver chaque âme perdue. Et peut-être que ce matin, seul Dieu tient les comptes et sait qui est sauvé. Et qui est perdu actuellement? Et c'est un temps de grâce aujourd'hui, dans ces temps que nous vivons, un temps pour nous remettre en question, est-ce que je suis réellement sauvé? Parce que si vous vous posez déjà la question et que vous savez pas trop, ben ça sous-entendrait peut-être que vous ne l'êtes pas. Parce que quand on est sauvé, on le sait. Il y a une assurance du salut. Ça ne s'explique pas. C'est une espérance qui est au fond de notre cœur. On sait que si on ferme les yeux ici-bas, la seconde qui vient, on est auprès du Seigneur. Alors ça, on ne peut pas l'expliquer. Donc merci Seigneur, et le Seigneur veut nous sauver. Et peut-être que ce matin, celui ou celle qui n'a pas fait encore la paix, qui n'a pas donné sa vie au Seigneur, c'est le moment. Faites-le. Alors, c'est pas un culte d'évangélisation, mais c'est quand même un moment où on doit se remettre en question. Vous savez, c'est que ce n'est pas les années qui font de nous quelqu'un qui est sauvé, les années de baptême, je veux dire. C'est quelqu'un, on l'a dit au tout début, qui a ce rapport avec le Seigneur, qui connaît le Seigneur, alléluia, et qui a cette relation avec lui. Amen. Alors, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Amen. On n'imagine pas ce matin combien de fois le ciel s'est réjoui. Le ciel est en fête. Alors, je ne sais pas pour vous, comment vous interprétez la joie. Des fois, nous, en tant que Français, ou ça dépend comment, de notre éducation, on le voit dimanche après dimanche, la joie, elle est là, mais elle est contenue, elle est bridée un peu. Parce qu'on est quand même dans une église. Je ne sais pas pour vous ce que veut dire le ciel en fête. Alors, il n'y a rien d'extravagant, évidemment, comprenez très bien. Il ne faut pas faire des amalgames. Mais la joie, il faut qu'on puisse la vivre. Alléluia. Amen. La deuxième parabole, c'est la parabole d'une dame qui a perdu une pièce. C'est la parabole de la drachme perdue. Il n'y a que 3 versets dans cette parabole et pourtant elle contient tant de richesses. On peut le lire à la suite, verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alléluia. Ici, on s'aperçoit que cette dame, à un moment donné, elle compte, et puis il lui manque une pièce. Elle réalise sa perte. Elle réalise qu'elle a perdu quelque chose. Déjà, je trouve que c'est une bonne chose, parce que certains ont perdu certaines choses dans leur vie et ils ne s'en aperçoivent pas. L'exemple de Samson, vous en rappelez? Samson, juge, chapitre 16, versets 20 et 21. « Je m'en tirerai comme les autres fois, quelle arrogance, et je me dégagerai. » La suite du verset, « Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. » Regardez la suite, c'est terrible quand même, c'est un homme qui a été appelé par le Seigneur. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Alors ici, on voit que cet homme, l'homme de Dieu, il est appelé à une grande mission, à une libération du peuple. Quand on fait le constat du verset 21, il est là en train de tourner la meule, les yeux crevés. Pourquoi? Parce qu'il avait une certaine arrogance. Il n'était même pas au courant qu'il avait perdu quelque chose dans sa vie, dans son cœur. Il dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Qu'est-ce que cela relate? Qu'il y a beaucoup de laxisme, beaucoup de personnes qui disent, mais ne t'inquiète pas, pasteur, ça va. Alors qu'on voit, d'après les fruits qui sont là, finalement, ça va pas. C'est pas ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est plus d'engagement, plus de consécration avec Dieu, plus de temps dans sa présence. Et quand on fait ces choses-là, il y a un fruit qui en découle. Où on aime venir se retrouver, être là, être tous ensemble, apporter ma contribution. Faut savoir une chose, apporter ma contribution, il faut juste rétablir les choses. Le Seigneur n'a pas besoin de nous. Nous sommes des serviteurs inutiles. Alors, pour quelqu'un qui dit, ben, le Seigneur a besoin de moi dans son œuvre, pas du tout. Et pourtant, dans sa grâce, il veut nous rendre participants. Il veut que nous puissions participer, alléluia, et que nous puissions en tirer un bénéfice de joie et de réconfort dans notre cœur. Parce qu'il n'y a pas de plus grande joie que d'amener quelqu'un au Seigneur, par exemple, de le suivre, d'être quelqu'un qui... Alors, c'est un mot à la mode, hein, qui le drive, qui le coach un peu, hein, qui lui enseigne ce que lui-même a appris. Ça, c'est la beauté de l'Église. Donc, cette femme réalise sa perte, puisqu'elle va faire des choses concrètes, elle va allumer la lampe pour scruter et regarder dans les moindres recoins de la pièce, peut-être là, elle sait pas où elle a perdu donc son bien. Et quand on allume parfois notre cœur, des fois c'est pas terrible, hein. Vous avez remarqué, une pièce noire, on allume, c'est pas terrible ce qu'on boit. Jésus va dire, je suis la lumière du monde. En fait, ça sous-entend, je suis venu pour éclairer les cœurs dans les ténèbres. Il vient éclairer, mettre en lumière, pas pour nous mettre là sur le pilori, les royer cette personne comme elle est mauvaise, qu'elle est ceci, elle est cela. C'est pas là l'attitude du Seigneur. Le Seigneur vient pour nous éclairer afin qu'on puisse délaisser certaines choses. Ça, c'est la réalité. Elle allume la lampe, elle balaye, elle cherche donc minutieusement, avec zèle, avec soin, avec empressement. Et ça, c'est vraiment important. Elle retrouve la pièce. Il y a une joie qui vient. Et puis, cette joie, elle ne peut pas la garder pour elle. Regardez, pour ceux qui pensent qu'on peut vivre aujourd'hui sans être dans la communion fraternelle, sans appartenir à une église. Elle, c'est tout le contraire. Elle retrouve sa pièce et elle va se réjouir avec les autres. En fait, c'est ça l'Église. Quand quelqu'un est béni par le Seigneur, et ça réjouit notre cœur, il n'y a surtout pas de jalousie. Alors on le dit, on le verra dimanche prochain, mais on le dit, quand on n'a pas le même besoin du frère ou du sœur, ou de la sœur, où le Seigneur a accordé une guérison ou un miracle. Quand quelqu'un a un besoin, hein, je ne sais pas, n'importe lequel, et puis j'ai le même besoin, et quand le frère ou la sœur vient témoigner, dire voilà, j'ai prié le Seigneur m'a guéri. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Est-ce qu'on dit merci Seigneur pour ma sœur, ou alors Seigneur, pourquoi moi tu m'as oublié? Ah oui, c'est ça. Hein. Donc elle balaye, elle cherche avec un zèle, avec soin, avec empressement, elle la trouve, la joie, la communion. Et qu'est-ce que nous enseigne cette histoire en fait? Parce que toutes ces histoires, ces paraboles, le Seigneur nous les a données, parce qu'il y a des grands secrets à révéler. Parce qu'en fait, on peut perdre certaines choses dans nos vies. Peut-être pas grand-chose. Peut-être que quelqu'un, ce matin, a perdu son premier amour. Vous vous rappelez la fois où le Seigneur vous a touché pour la première fois? Ce que ça a produit dans votre cœur. Et aujourd'hui, je connais pas mal de personnes qui sont aujourd'hui que l'ombre d'eux-mêmes, finalement. On peut perdre notre premier amour. On voit dans l'Apocalypse, c'est arrivé à une église, le remède. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est ça le remède. Souviens-toi. Voilà, fais un constat dans ta vie. C'est tellement important. Ça parle de repentance. Peut-être que quelqu'un a perdu sa joie. Parce que vous savez qu'il y a des voleurs de joie. Et qu'il y en a spécialement un qui essaie de nous enlever la joie. Si on regarde que s'il n'y a que les choses matérielles qui nous tiennent, alors dès qu'on va nous enlever quelque chose, on va perdre notre joie. Mais si notre joie, elle est placée dans le Seigneur, on peut nous retirer peut-être tout. C'est sûr, ça va procurer quand même quelque chose. Mais la joie, elle va demeurer. Je dis ça parce que ce matin, je me faisais encore cette réflexion. Hein. On passe tous par des moments difficiles, hein, particulièrement. Hein, vous l'aviez suivi, je vous l'avais dit, au niveau de la famille, pas mal de décès. Au niveau personnel, on est soumis aux mêmes soucis. Mais moi, je fais une prière régulière devant mon Dieu. Et Seigneur, que je ne perde pas la joie de ton salut. Vous savez comment... on reconnaît quelqu'un qui est dans la joie. Par des belles dents bien blanches. C'est à peu près la couleur. Par un grand sourire. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas un sourire de façade, mais c'est quelque chose où qu'on réalise, « Seigneur, tu m'as sauvé. » Certes, il y a des difficultés, mais Seigneur, tu as dit que tu serais avec nous. Même des paroles de foi qui sont là, « Seigneur, tu seras avec moi. Seigneur, et tu vas m'aider dans cette situation. » On est rempli de confiance et que cette joie demeure dans notre cœur. Alléluia. Peut-être que quelqu'un a perdu sa joie. Alors, il y a un verset qui nous dit, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Réjouissez-vous dans le Seigneur. Peut-être que quelqu'un a perdu cet esprit de service. Moi, je bénis Dieu. Je l'ai oublié tout à l'heure. Hein. Je salue donc Claude. Voilà, Jonathan. Hein. Personne ne l'a remarqué ce matin. Enfin, personne. Je dis ça. En tout cas, ça ne m'est pas revenu. Vous avez remarqué qu'on a changé les lumières? Vous l'avez remarqué. Hein. On avait fait ces derniers temps un appel. Voilà, si on pouvait aider. Trop eu de personnes hein, qui se sont proposées. Et puis, à surprise, certains qui ne s'étaient pas manifestés, qui ont été là quand même. En fait, c'est ça, c'est cet état d'esprit, toujours en train de servir. Dire, Seigneur, trouve-moi en train de servir. C'est sûr que humainement, on préfère être servi que servir. Mais la Bible nous révèle encore un secret. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais il y a un autre verset qui nous dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ça, c'est la promesse de notre Seigneur. Alors, si tu as perdu ton service, la prière, peut-être même la louange, apporter la reconnaissance au Seigneur. C'est quand même dramatique qu'il faille dire, s'il vous plaît, frères et sœurs, élevez vos voix, apportez la reconnaissance au Seigneur. Je trouve que c'est dramatique, en fait. Ça devrait épuiser. Au contraire, on devrait être là, hein, ceux qui conduisent, en disant, frères et sœurs, voilà, prions courtement pour laisser l'opportunité à chacun de pouvoir s'exprimer. Et je crois que dans ce domaine-là, on a besoin vraiment de grandir. Pas, encore une fois, dans l'extravagance. Hein, maintenant, hein, un an qu'on est là, on n'est pas du tout là-dedans. Mais quand même apporter la reconnaissance au Seigneur. Lui dire ouvertement, laissez mon ego, parce que souvent, vous l'avez remarqué, hein, l'ego, il veut pas. L'apôtre Paul va faire cette déclaration. Je vais crucifier ma chair. Waouh, c'est violent. Hein. Va faire attention, moi, à comment je me sens ou quoi que ce soit. Que je me sente bien ou mal, le Seigneur est quand même digne d'être loué. Alléluia. Amen. Peut-être tu as perdu des projets pour le Seigneur que tu avais. Le Seigneur avait déposé quelque chose dans ton cœur, tu l'as perdu. Évangéliser, famille, collègues. Peut-être que tu as perdu ton zèle. Il n'y a plus cette effervescence. Peut-être que c'est un temps, ce matin, où on doit se remettre en question et demander la grâce à notre Seigneur. Je vais terminer hein, par lire, sur la troisième parabole du fils prodigue, que l'on connaît par cœur. Il y aurait eu bien des choses encore à partager. Mais ce que je remarque, c'est que dans ces trois paraboles, regardez la précision. Il y a tout d'abord la brebis égarée. La perte, 1%. Pas grand-chose, c'est rien. Parole de la drachme perdue, 10%. Ça va rajouter quelque chose quand même de profond. Et puis, la parabole du fils perdu, pour le père, la perte, 50%. Deux frères. Il y en a un qui perd, qui est perdu, qui s'en va au loin. Alors il y a des étapes, si on s'est reconnu et qu'on sent ce matin qu'on a perdu quelque chose, de la spontanéité, du zèle, la louange, la prière, on l'a dit. Peut-être qu'il y a des étapes pour revenir. Tout d'abord, prendre conscience de notre état spirituel. Donc prendre conscience, obligatoirement. Et le moyen, c'est la repentance qui est nécessaire. Alors, ce n'est pas faire des grandes prières, c'est peut-être dans son cœur dire, Seigneur, ce matin, tu parles à mon cœur. Et j'ai sûrement perdu certaines choses. Et j'ai besoin de revenir à toi. Alléluia. Tourner les yeux vers celui qui a été crucifié, on l'a chanté encore une fois, et qui est ressuscité. Amen. et accepter que Dieu change cette mentalité, cette nature qui a voulu s'installer. On peut faire cette prière du psaume 37 et on terminera. 37 verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, tout simplement, et il agira. Le même verset dans la version Parole vivante. Remets ton destin aux mains du Seigneur. Aie confiance en lui et il agira. Alléluia. On va pas faire d'appel. On va simplement terminer par la prière. Et pendant ce temps de prière, chacun d'entre nous, ayons une minute d'honnêteté devant le Seigneur. En disant, Seigneur, je te permets ce matin de venir toucher mon cœur afin que je remette les priorités de la marche et de la vie chrétienne. Seigneur mon Dieu, que je remette les choses en place pour que, Seigneur mon Dieu, tu puisses faire ton œuvre au travers de ma vie. Alléluia. Amen. Seigneur, encore merci pour ta parole. Merci parce que ce matin encore, tu as bien voulu nous parler. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur mon Dieu, parce que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Seigneur, nous avons partagé sur des choses qui sont perdues, mais nous avons vu au travers de ces petites histoires qu'elles ont été retrouvées. Seigneur, j'ai confiance, j'ai foi. Si tu as permis, Seigneur mon Dieu, de me communiquer ce message, c'est parce que tu veux agir. Il y a au moins une personne qui avait besoin de l'entendre ce matin, qui a quelque chose qui a été perdu, qui a besoin d'être retrouvé. Seigneur, qu'il n'y ait pas des cœurs endurcis, mais au contraire, des cœurs qui s'inclinent devant toi et qui te demandent pardon, qui reviennent avec un cœur repentant. Seigneur, nous le voyons au travers, Seigneur mon Dieu, du fils prodigue. Tu ne l'as pas jugé, tu ne l'as pas sanctionné. Tu as couru vers lui. Tu l'as embrassé, Seigneur. Tu l'as réintégré. Alléluia. Seigneur, c'est ce que tu fais avec chacun d'entre nous. Combien de fois nous t'avons déçu? Combien de fois nous sommes éloignés? Seigneur, je te remercie encore parce que l'opportunité est donnée à quelqu'un ce matin de revenir et de retrouver quelque chose qu'il avait perdu. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci notre Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.